Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le co-développement avec Fabien Rodin qui est formateur et facilitateur en co-développement. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbina Bonheur, un jeu plutôt sérieux qui s'intéresse aux talents, à les identifier chez nous et chez les autres, mais aussi à identifier les talents d'un groupe. Je vous propose de retrouver tout de suite Fabien. Bonjour Fabien.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons aujourd'hui parler de co-développement. Ça fait tellement longtemps que j'attends de parler de ce sujet, puisque tu as créé une école qui forme au co-développement et tu fais des interventions en entreprise en co-développement. Et j'ai bien envie d'aller un peu plus profondément dans ce sujet, comment ça fonctionne, ce que c'est. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, notamment ton parcours? Toi, tu es un slasher, tu as tellement d'activités. J'aimerais bien que, en tout cas, les gens qui écoutent puissent comprendre qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais.
Ah, mais attends, parce que déjà, un slasher, dis-moi quoi, parce que je suis peut-être
un
slasher.
Ah oui, tu ne savais pas que tu étais un slasher?
Non.
Un slasher, donc, c'est des gens qui ont plusieurs activités ou plusieurs professions qui font plein de choses en même temps. Et toi, entre la BD, le co-développement, tu as écrit plusieurs bouquins, tu navigues dans plusieurs univers.
Ah oui, ça y est, ça me revient, tu avais écrit un truc là-dessus, je crois, un jour.
J'ai fait un podcast, tu viens faire un podcast sur les slashers.
Ah, c'est ça, j'ai entendu, alors, ok. Donc je suis, ok, j'accepte. Je suis un slasher et heureux d'y être. Oui, en effet, alors aujourd'hui, bah, j'ai deux activités principales. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire que ces deux activités, elles participent de la transition écologique et humaine, dont je me sens vraiment un acteur, quoi. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, il y a d'un côté ce qui nous amène là principalement, donc le co-développement et plus largement la famille de l'intelligence collective. Pourquoi je trouve que ça participe à la transition? Bah, tout simplement parce que je pense que, disons que face aux défis auxquels l'humanité doit faire face, eh bien, c'est le co-développement, l'intelligence collective qui va nous permettre de nous en sortir, ou alors c'est la connerie collective qui va définitivement nous enfoncer, mais en tout cas, c'est le collectif, quoi. Ça me semble vraiment, vraiment important. Et puis, le deuxième axe donc, de mon activité qui est l'écriture, comme tu disais tout à l'heure, simplement, bah, l'écriture pour moi, c'est surtout, c'est quand même sur un. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires, quoi. C'est la notion de récit. Donc, j'ai écrit des romans, des pièces de théâtre, et puis actuellement, je suis un peu à fond dans la bande dessinée en tant que scénariste. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est là aussi, ce sont des écrits qui portent mes convictions autour de la transition écologique et humaine. Et puis avant ça, bah oui, je faisais des choses complètement différentes, puisque je viens du monde, enfin, professionnellement, je viens du monde de l'informatique, notamment. Et puis j'ai aussi été coach individuel, j'ai appris l'hypnothérapie que j'ai pratiquée pendant quelques temps, et puis bon, quelques autres choses.
Ok, donc on va en venir au sujet du co-développement.
Avec plaisir.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement ce que c'est?
Oui, bien sûr. Alors le co-développement, c'est une approche qui a été mise au point il y a une bonne quinzaine d'années par deux Canadiens, qui s'appellent Claude Champagne et Adrien Payette. Ce qui fait, comme vous l'aurez noté, Champagne et Paillettes, mais bon, je pense pas que c'est l'exprès, les deux garnements, qui à la base a eu pour ambition de pouvoir compléter les systèmes de formation. Le constat qu'ils avaient fait, nos deux compères canadiens, c'est que tout simplement la formation n'était pas toujours efficiente, surtout pour les managers. Donc ils ont eu l'idée d'apporter un nouveau modèle qu'ils ont imaginé d'une manière hyper pragmatique, comme le font souvent, je crois, les Nord-Américains, puisque ça ne devra pas échapper que de nombreuses méthodes viennent du Canada. On pourrait citer la communication non violente. Il y a des tonnes de méthodes qui viennent du Canada. Je pense parce qu'ils ont un côté qui est à la fois humaniste, comme nous, Européens, et peut-être un peu plus pragmatique. Donc, ils testent, ils ont une idée, ils testent, ils améliorent, etc., etc. Donc, nos deux Canadiens ont mis au point cette méthode, qui est issu du modèle de ce qu'on appelle la praxéologie, c'est-à-dire l'apprentissage par la pratique. Une phrase qui schématise ce principe qui dit « la pratique enseigne des vérités que la théorie ignore ». On est vraiment dans une méthode du 21e siècle pour le 21e siècle. C'est-à-dire que au-delà de la technique, je pense qu'on parlera peut-être tout à l'heure, si ça t'intéresse, des six étapes, enfin de choses un peu plus précises. Mais ce qui est important, je trouve, c'est que cette méthode porte une forme de renversement. C'est-à-dire que dans les approches classiques telles que la formation ou même le consulting, on a toujours affaire à un sachant, quelqu'un qui est dans une position qu'on va appeler position haute, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui dit ou qui laisse entendre par son positionnement, je vais vous expliquer sur une théorie que je maîtrise, je vais vous expliquer comment vous pourriez faire, et puis quand vous l'appliquerez, vous allez voir, ça va mieux se passer pour vous. En gros. Sauf que ça fonctionne dans certains cas, qui sont essentiellement des sujets techniques, comme par exemple si on passe à un nouveau logiciel comptable ou autre chose, quoi. Il faut bien qu'on apprenne la technique, mais on se rend compte quand même que pour tout ce qui est du domaine du savoir-être, c'est bien plus compliqué, et c'est le cas notamment pour le management. Et qu'est-ce qu'on constate après les formations en management? C'est que très souvent, les participants disent « Ah ben, c'était chouette, parce qu'ils ont vécu un moment un peu en dehors du temps, parce qu'ils se sont reconnectés les uns aux autres, ils ont partagé et tout. » Mais un mois après, quand on va leur demander s'ils ont mis en application, souvent la réponse qu'ils font, c'est « Ah non, ah c'est super ce qu'on avait appris, mais le problème, c'est que dans ma société, c'est trop spécifique. » Je crois qu'une fois sur deux, on entend « c'est trop spécifique. » En co-développement, c'est l'inverse, puisqu'on part du terrain. On va pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, on va écouter des participants sur leur vérité, sur ce qu'ils vivent, sur leur concret, et ils vont nous raconter, voilà, j'ai tel projet en ce moment, ou j'ai tel problème, et c'est à partir de ce qu'ils vivent qu'on va œuvrer. Donc on part du concret, du terrain, de la pratique, et on réfléchit ensemble, et on amène, on fait cheminer, et on amène des solutions potentielles aux personnes.
D'accord. Bah, on va peut-être rentrer dans ces six étapes, avec la première étape, peut-être?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, déjà, il faut que je dise comment ça fonctionne. C'est-à-dire que généralement, enfin, l'idéal, on va dire, c'est de créer un groupe donc de 8 à 10 personnes maximum qui va vivre dans le temps, c'est-à-dire qu'il va se voir une fois tous les mois et demi, admettons en moyenne, pour une séance. Et une séance, c'est à peu près une petite demi-journée, 2h30 à 3h. Pendant cette séance, avant, donc, on va se mettre autour d'une personne. Au début de la séance, on ne sait pas qui va être cette personne. Donc la première étape, qui ne fait pas partie des six, on a tendance à l'appeler l'étape zéro, ça va être le choix ensemble de la personne et de la situation autour desquelles nous allons œuvrer pendant cette séance. Donc chacun, donc je ne vais pas rentrer dans la méthode d'animation bien sûr, mais chacun va pouvoir présenter en quelques mots avec quoi il arrive. Et avec quoi il arrive, ce n'est pas forcément un problème, hein, comme on entend toujours, ça peut être certes un problème, mais ça peut aussi être un projet. Ça peut être, voilà, actuellement je suis en charge de tel projet, j'ai peut-être pensé à beaucoup de choses, mais peut-être pas à tout, j'ai peut-être des zones d'ombre, ça m'intéresse que vous me fassiez du retour, tu vois. Et puis les problèmes, bah, ça tout le monde connaît, tout le monde pense d'abord aux problèmes, j'ai un problème avec un collaborateur, j'ai un problème avec tel projet, avec un client, que sais-je. Donc une fois qu'on a choisi ce qu'on appelle le client, c'est-à-dire la personne autour de laquelle on va se mettre en solidarité, il s'appelle le client, les autres s'appellent les consultants. Juste pendant le temps de cette séance, hein, c'est le vocabulaire... des inventeurs qu'on a conservés. Hein. Donc, un client.
Comment on choisit le client?
Eh bien, on le choisit au feeling, c'est-à-dire que c'est un choix collectif. L'animateur ou facilitateur va écouter l'appétence de chacun d'une manière très intuitive, qui n'est pas une comparaison, c'est-à-dire c'est pas je préfère, mais c'est simplement voilà, je me sens appelé par tel sujet cet après-midi ou ce matin. Sachant que l'animateur ou facilitateur, si on utilise les deux termes, c'est sa responsabilité en fait, hein, d'acter le choix. C'est pas un vote en clair. Ça peut être pour des raisons d'évolution du groupe qu'il va faire le choix, par exemple pour la première séance, d'une situation qu'il va sentir plus facilement maîtrisable qu'une autre. Pour que le groupe,
Le groupe va prendre chaque thème, puisque un mois et demi, on va se revoir et on va prendre le deuxième thème. Mais ces thèmes, je suppose que, puisqu'on se voit tous les mois et demi ou deux mois, peuvent évoluer aussi pour chaque personne au sein du groupe. C'est-à-dire
absolument.
Que ce qu'il a présenté là, ce ne sera pas forcément la même chose au tour d'après.
Absolument. Alors potentiellement, oui. C'est-à-dire que si on fait 8 séances avec 8 personnes, chacun aurait la possibilité d'être au moins une fois client. Maintenant, il arrive que des organisations... n'est pas le budget ou le temps ou que sais-je, j'ai besoin de 3 séances. Ça me permet de dire aussi qu'on apprend et on, et on, on est bénéficiaire d'une sorte de co-développement, même quand on n'est pas client, c'est ce que disent tous les participants, je dirais quasiment sans exception. Donc il ne faudrait pas penser, ah oui, mais alors il n'y en a que trois qui en profitent. Non, c'est faux, tout le monde en profite. Ça rejaillit
Dans
sur.
quelle mesure on en profite quand on n'est pas client?
Eh bien, on en profite parce que l'apprentissage que fait le client, pour la plupart du temps, rejaillit sur tout le monde. On en profite parce que il y a plein d'effets, comment dire, d'effets induits qui ne sont pas forcément annoncés au départ et qui vont rejaillir sur chacun. Par exemple, on va mieux comprendre quand on aura fait le tour un petit peu de toutes ces étapes, mais j'en dis juste un exemple tout de suite là, c'est la capacité d'apprendre ou de réapprendre à écouter véritablement et à scinder l'écoute puis l'apport de conseils et de recommandations. Ben ça aujourd'hui c'est un truc que quasiment personne ne fait. C'est-à-dire qu'on a une tendance tous, nous autres humains, en tout cas au moins occidentaux, quand on nous parle d'une situation en face de nous, on est déjà en train de penser solution, quoi. On a du mal à se mettre véritablement à l'écoute et à essayer de voir le monde comme si on avait les lunettes de l'autre, tu vois, ce qu'on appelle la vision du monde, quoi. Et pourtant, c'est central si on veut écouter quelqu'un et pouvoir l'aider. C'est au moins aussi important que le problème dont il est question. C'est la manière dont tu ressens le problème et dont tu la vis est au moins aussi importante que le problème objectif, entre guillemets. T'es d'accord avec ça?
Oh, donc ça veut dire qu'au sein des six étapes, il y a aussi une distribution de la parole, il y a des outils de distribution de la parole?
Oui, mais qui sont gérés à sa manière par le facilitateur. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que on ne prône pas, en tout cas moi je ne prône pas dans ce que je transmets, l'usage par exemple d'un bâton de parole ou d'un processus très cadrant par rapport à la distribution de la parole. C'est plutôt, je dirais, une parole qui circule en toute liberté avec une gestion quand il le faut par le facilitateur.
Parce que ça peut être quoi les, entre guillemets, abus?
Oh, bah ça peut être ce qui peut se passer classiquement dans tous les processus de groupe, c'est-à-dire d'une part des tentatives de prise de pouvoir, le mot est trop fort, mais de présence trop forte d'un des participants, très souvent d'ailleurs pour de très bonnes raisons, c'est-à-dire une grande motivation à œuvrer, à participer pour le bien du client, mais néanmoins qui parfois va étouffer la présence d'autres qui vont être moins assertifs. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils sont moins assertifs qu'ils doivent être moins présents. Donc ça va être le boulot du facilitateur, que parfois de modérer, d'aller chercher ceux qui ne prennent pas la parole d'une manière naturelle, par exemple.
Donc on ne peut pas faire de co-développement sans un facilitateur qui a cette expérience-là, qui est capable de distribuer cette parole ou en tout cas de la réguler.
C'est une excellente question. En effet, disons dans l'ADN du co-développement, il y a facilitateur extérieur.
D'accord.
Après, on peut tout à fait imaginer qu'un groupe se monte, et que des gens se forment, et qu'à un instant T, quelqu'un qui ait suffisamment de bagages, je dirais, dans ce genre d'univers, puisse dire, mais aujourd'hui, c'est moi le facilitateur. Mais néanmoins, il est bien extérieur au moment de la séance. Il n'est pas un des membres au même titre que les autres. Il va avoir une position de facilitateur, pendant cette séance.
Il ne pourra pas être client.
Il ne pourrait pas être client, absolument.
D'accord. Bah, commençons avec la première étape alors.
Et donc pendant la première étape, eh bien, le facilitateur va inviter le client tout simplement à exposer sa situation pendant 5, 7, 8, 10 minutes grand maximum, comme bon lui semble, c'est-à-dire qu'on écoute tout simplement. Et là, les consultants font l'expérience d'écouter quelqu'un sans avoir la possibilité de le couper, puisque là, il n'est pas question de le couper. On est en accueil de la manière. De ce que dit le client et de la manière dont il le dit, mais aussi de ce qu'il ne dit pas et aussi de son non-verbal, etc. Si quelque chose n'est pas clair, c'est que c'est pas clair et c'est intéressant que ça ne soit pas clair. C'est un truc à écouter. Bon, voilà, donc bon, c'est pas très compliqué, mais souvent ça crée des petites frustrations aussi, puisqu'on a tellement plus l'habitude d'écouter quelqu'un comme ça pendant
En fait, on a
une
envie de
session.
réagir.
On a envie de réagir, exactement.
Ouais.
Donc c'est apprenant pour le client, c'est apprenant pour les consultants aussi, puisqu'on aurait envie de réagir et pourtant bah, c'est motus et bouche cousue, sauf bien sûr si on n'a pas compris parce qu'il y a eu un bruit ou que sais-je, mais pas pour aller creuser, pas pour dire qu'est-ce que tu veux dire par là.
Et de ce que tu as vu dans les groupes que tu as facilités, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à suivre ou pas? Ou qu'est-ce qui peut se passer
Oui.
dans cette séquence?
Non, non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment tranquille, quoi.
D'accord.
Parfois, les gens ont une impulsion, bien sûr, et on est là pour ça, quoi, en tant que facilitateur, parce qu'on est quand même là comme garant de l'esprit du co-développement. Si ça fonctionne, le co-développement, c'est pour plein de petits détails, qu'il faut pouvoir faire vivre en réalité, quoi, dans celui-là. Si ça commence à partir sur deux dialogues, on perd quelque chose, fatalement.
Alors, l'étape 2.
L'étape 2, bah là, pour le coup, c'est une étape de dialogue. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le questionnement, mais pas n'importe quel questionnement, un questionnement de clarification. Cette étape, elle dure 30 à 45, 50 minutes. Clarification, le mot est vraiment important. Parce que dès la première séance, on va proposer au consultant de poser des questions qui vont viser à un peu avoir, comme je le disais tout à l'heure, la situation que nous présente le client comme si on était lui, quoi, comme si on avait ses lunettes ou ses chaussons. Donc sa vision du monde. Donc il y a des questions qui vont toucher à la situation, mais concrètement, quand tu dis que, qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être quel est l'organigramme, à qui, voilà, etc. Ou comment fonctionne ton client, ou que sais-je, ton collaborateur. Et puis on va aussi avoir des questions qui vont toucher à ce qu'on appelle le client dans la situation. Jusqu'où c'est un problème pour toi? Qu'est-ce que ça te fait? Quel serait l'idéal pour toi? Un peu les questions qu'on peut trouver dans le monde du coaching, quoi, finalement. Mais ce qui est très important, ça va être de raisonner le plus large possible et d'aller vers la diversité, voire même vers la divergence, c'est-à-dire d'ouvrir plein de portes différentes. Et là aussi, le co-développement se distingue un petit peu de pas mal d'autres approches d'intelligence collective, parce que si jamais, à un moment donné, l'animateur sent qu'il y a une sorte de convergence, que le groupe est en train de creuser un sillon, tu vois, cette idée que, ah oui, il tient une piste et que c'est la bonne, quoi. Alors on continue et puis on va un tremplin, puis on repose une question, puis on est content parce qu'on se dit « Ah, ça a l'air de marcher !» Et bien ça, c'est un indicateur, pour le facilitateur, c'est un indicateur qu'il y a un truc qui ne va pas complètement bien dans l'esprit du co-développement. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est raisonner le plus large possible. Donc on va chercher dans ces cas-là à orienter nos groupes pour qu'ils poussent d'autres portes. Pour le bien de notre client toujours. Okay? Donc c'est ça, la question de la clarification, c'est vraiment de raisonner le plus largement possible.
Et en fait, le fait qu'il y ait 8 personnes, cette clarification, en fait, tu as différentes personnalités, différents points de vue, et c'est ça qui fait que naturellement, on va être dans cet esprit divergent.
Absolument. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que dans le co-développement, c'est un truc que j'adore personnellement, c'est justement de faire des groupes qui sont complètement divers, de par leurs participants aussi. Parfois, les gens disent « Ah, mais il faut que les gens comprennent la problématique, donc il faut avoir que des DRH ou que des ceci, que des ça. » Mais non, pas du tout. Oui, c'est bien d'avoir que des DRH de plusieurs sociétés parce qu'ils ont un fond de culture commune. Mais c'est super aussi d'avoir 3 DRH, 2 chefs de projet en informatique, un créateur d'entreprise et puis 2 altermondialistes. Et ben, c'est extraordinaire.
Ben, moi, ils arrivent à trouver un langage commun et à se comprendre.
Mais oui, parce que le langage commun, c'est juste le langage humain. On laisse tomber justement les masques, tu vois, les espèces de scaphandres quoi, qu'on porte tous. Les armures.
Étape 3.
Étape 3. Merci de faire le gardien du temps, c'est important.
C'est moi la facilitatrice. Là.
Exactement. Ça fait du bien. Et bien, après cette clarification, il y a passé quand même 50 minutes, parfois jusqu'à 1 heure. Ce qui est génial, c'est que le client, souvent, il a cheminé. Parce que c'est un peu comme en coaching, hein, c'est le questionnement qui fait cheminer beaucoup plus que l'affirmation. Et donc, à l'étape 3, on va demander au client quelle est la demande qu'il formule au groupe. C'est ce qu'on appelle le contrat, évidemment. Avec quoi aimerais-tu repartir, en d'autres termes? Ici, là, dans ici et maintenant. Et là, le client, généralement, va formuler sa demande, et parfois, on va devoir la challenger, parce que il faut que tout le groupe soit partant. Là, c'est la seule étape où on cherche un consensus vraiment total. On part du principe que il est impossible de contribuer si on n'est pas d'accord avec la demande. Bon, ça paraît évident, hein, dit comme ça. Donc on va parfois challenger, rediscuter, retravailler la demande avec le client pour que lui s'y retrouve, mais pour que les consultants soient OK aussi pour travailler sur cette demande. Je vais prendre un exemple. Le client qui dirait moi, ce que j'aimerais, le contrat, c'est je veux absolument être vraiment reconnu par mon boss, ben c'est pas vraiment possible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est peut-être possible qu'il soit vraiment reconnu par son boss. Mais nous, en tant que groupe, nous ne pouvons pas faire en sorte qu'il soit reconnu par son boss. C'est d'accord, ce qu'on peut faire, c'est dans l'instant présent, on peut peut-être œuvrer, donner quelques idées dont la personne va saisir ou pas, pour peut-être, etc. Mais ce n'est pas en notre pouvoir de faire en sorte qu'il soit reconnu par son boss.
Oui, ce serait plus facile qu'il exprime quel est son besoin et qu'est-ce qu'il pourrait poser comme action pour répondre à son besoin. Et si son besoin, c'est que son boss le reconnaisse, qu'est-ce qu'il peut faire pour.
Exactement. Et donc, en tant que facilitateur, quand on entend ce genre de choses, enfin, pas quand on entend ce genre de choses, pardon, dans tous les cas, le client pose sa demande et on fait un tour de chacun. Qu'est-ce que tu en penses, Claire, est-ce que tu es partante pour travailler ce contrat? Ben oui. Et toi, Christian? Ah ben non, parce que moi, je me dis que je ne vois pas comment je pourrais. C'est pas. Ah d'accord, qu'est-ce qui ne te va pas? Donc, on va jouer comme ça pour bien faire sortir de chacun en quoi il y a une gêne, en quoi il y a un besoin, etc., etc., pour arriver à un contrat au final qui va satisfaire tout le monde et en premier lieu, bien sûr, le client, parce que c'est pour lui qu'on est là.
Entre le moment où il présente sa problématique, qui n'est pas forcément une problématique, donc ce n'est pas le bon mot, mais entre la première étape, il y a eu la clarification. Il y a un fossé entre le contrat et ce qui avait été exprimé en premier lieu?
Alors, un fossé, rarement, quoi que ça puisse arriver, mais une évolution, très souvent, oui. Parce que le questionnement, comme il a fait cheminer, bah, très souvent, ça a déjà évolué, ça a déjà bougé. Donc, c'est intéressant à remarquer, c'est très apprenant pour tout le monde, d'ailleurs.
Ok, étape 4.
Étape 4, donc là, entre-temps, on a fait une toute petite pause de quelques minutes, au moins pour s'aérer un peu, s'aérer le cerveau. Ouais, ça me permet de dire que c'est émotionnellement assez fatigant, hein, le co-développement, surtout pour le client, parce qu'il est vraiment au centre de l'attention. Et donc, cette petite coupure, ça a l'air de rien, mais il est vraiment important. Étape 4, on revient avec de nouveau une étape qui va durer entre 30 et allez, 40 minutes, qui va s'appeler la consultation. Donc, c'est là où on va inviter les consultants, eh bien, à apporter des éléments en réponse au contrat qu'a formulé le client. Souvent, on va avoir des apports de deux ordres, dans deux familles, qui correspondent à la structure d'ailleurs du contrat qu'a posé juste avant le client. Et je fais un petit zoom là-dessus parce que ça permet aussi de parler d'un autre point très fort du co-développement, c'est qu'on a d'une part tous les apports qui vont concerner le dur, le concret, le contenu. Et puis on a de l'autre, pour moi, ce qui va être de l'ordre du soft, du doux, de l'humain. Par exemple, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourriez-vous, je vais mieux finaliser le contrat, pourriez-vous me donner des pistes, des idées, des retours d'expérience, des mots à ta place, qui pourront me permettre de poser des actes pour être idéalement mieux reconnu de mon patron. Voilà, version mieux finie de ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est le premier type de question qui va être dans le contrat. Et le deuxième type de question, ça va être très souvent, je suis ouvert aussi à tout ce qui peut être de l'ordre du feedback, des intuitions que vous avez pu avoir, de tout ce que vous avez pu ressentir en lien avec la situation que je vous ai présentée. Si jamais le client ne le dit pas spontanément, en tant que facilitateur, on va le proposer au moment du contrat. Pourquoi ça? Parce que ça illustre parfaitement le co-développement avec d'un côté la situation concrète de la personne, de l'autre, la personne dans la situation. Ça va, ça te semble
oui,
clair
oui.
Ce que je viens
de okay. Oui, oui.
Donc ça veut dire qu'on va retrouver ça forcément dans la quatrième étape, celle de la consultation, où les consultants vont apporter des réponses, des apports à ces deux questions. Et donc on va avoir des « moi à ta place », des recommandations, « un jour j'ai eu ça, j'ai fait comme si ça a marché » ou « j'ai fait comme ça, ça n'a pas marché ». Et puis tout ce qui est du domaine du feedback. Tiens, quand tu dis que tu as très envie, y a un truc qui a résonné en moi, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait en toi une part qui avait envie, puis une part qui n'avait pas envie. Je ne sais pas ce que tu peux en faire, mais bon, je te le dis, quoi. Voilà.
Okay. À cette étape, c'est un peu inversé. C'est en fait le client qui se met en écoute. Est-ce qu'il a le droit de réagir?
Excellente question. Ça fait partie des consignes donc on va donner en effet. Donc le client n'a pas le droit de réagir. Le client est en écoute totale et on lui demande même, plus loin que ça, de tout écrire, c'est-à-dire d'écrire toutes les recommandations, tous les retours qui lui sont faits, sans exception. On va même veiller aussi à ce qu'il y ait le temps vraiment de tout entendre et de tout écrire. Pourquoi tout écrire? Parce que on pense que dans le co-développement, il ouvre un rapport au temps qui est particulier, qui est riche. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, le client ait envie de totalement refuser une suggestion et que dans 2 mois, il reprenne ses notes et qu'il se dise « mais c'était juste génial ». Oui, mais tu n'étais pas capable de l'entendre aujourd'hui, quoi.
Ça me fait penser à quelque chose. En fait, dans ces temps, les clients comme les... C'est pas les consultants, excuse-moi, comment tu les appelles?
Si, les consultants, oui.
Les consultants. Ouais. En fait, partagent des choses qui peuvent être très personnelles. Donc, est-ce qu'il y a une valeur de confidentialité qui est posée dès le début ou comment tu crées la confiance?
ce que tu dis est très important, c'est qu'on a trois règles, et seulement trois dans le co-développement, et la première, c'est la confidentialité, c'est la plus importante. On l'a fait poser au début, on l'a fait acter, pas par écrit, mais au moins verbalement, tu vois, je veux dire, en tant que facilitateur, si on bosse correctement, on va chercher un accord physique, quoi, okay, un accord incarné, c'est-à-dire, oui, je me pose la question, hein, de la confidentialité, on s'attend à ce que chacun réponde vraiment oui ou fasse un vrai signe de la tête, soit vraiment attentif à ce qu'on a pour la sécurité du client. C'est vraiment très important.
D'accord. Tu as dit qu'il y en avait trois,
oui.
C'est quoi les deux autres?
Les deux autres, c'est la bienveillance et l'authenticité. Si je donne ma définition, parce qu'on pourrait parler pendant un jour, ça m'est déjà arrivé avec des collègues, de définir la bienveillance, etc. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est certainement pas dire tout ce qu'on pense, mais c'est au moins penser tout ce qu'on dit. Autrement dit, je ne suis pas dans le monde forcément des bisounours à dire « qu'est-ce que je crois en ton projet, mais c'est magnifique, et puis en plus tu es une tellement belle personne que oh, ah, c'est tout toi, quoi. » Non, si je le dis, c'est que je le pense. Alors je peux le dire, mais si je le dis, c'est que je le pense sincèrement. C'est pas en me disant, en version un peu pensée uniquement positive, si je dis un truc super positif, alors je vais lui envoyer du positif et ça va marcher. Il y a de l'espace dans le monde pour ça, j'y crois aussi, mais je veux dire là, ce que je pose, si je dis je ressens quelque chose, c'est que je le ressens. Okay, ça pour moi, c'est l'authenticité. La bienveillance, c'est la forme. L'authenticité, c'est le fond, la bienveillance, c'est la forme, comme partout dans la communication, c'est-à-dire c'est la forme que je vais mettre qui va te permettre d'accéder au fond. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je dis en quatrième étape donc de la consultation, si je dis j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si, j'ai eu l'impression que c'est comme s'il y avait une part de toi qui avait envie de réussir ce projet et une part qui n'a pas vraiment envie de réussir, voilà, écoute, je te livre ça, hein. Bon, pour moi c'est authentique et c'est bienveillant. Mais si je dis écoute, tu as ton projet, franchement tu veux pas vraiment le réussir, alors laisse tomber parce que ça marchera jamais, c'est proche mais c'est pas pareil, quoi, c'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Si jamais ça arrivait, d'ailleurs, la mission reviendrait bien sûr au facilitateur d'intervenir pour faire respecter la règle de la bienveillance.
Voilà, c'est pas évident, parce que même si quelqu'un a dit ça, il y a des susceptibilités. Donc ça ne doit pas être évident de faciliter un groupe quand même.
Non, mais c'est tout l'art justement de la facilitation avec le co-développement, c'est-à-dire que ce que les gens viennent chercher, c'est ces toutes petites subtilités-là, parce que franchement, les six étapes dont on vient de parler, un enfant de 8 ans, de l'énergie dans 5 minutes. Donc, c'est pas ça la question, quoi. La question, c'est de comprendre toutes ces subtilités. Là, par exemple, ma recommandation, quand ça arrive, c'est surtout pas de dire en tant que facilitateur, c'est pas super bienveillant ce que tu viens de dire, comment tu pourrais reformuler? Parce que dans ces cas-là, je passe en position haute.
Oui.
Et c'est un peu ennuyeux par rapport à la vie du groupe. En revanche, ce que je fais et ce que je propose de faire personnellement dans les formations, c'est de dire, ok. Et toi, client, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Est-ce que tu peux partager avec nous, si tu en es d'accord, ce que ça te fait? Et là...
Oui, donc tu fais réagir quand même le client, oui, à ce moment-là, alors qu'on est dans la phase de consultation.
Oui, mais le client, en fait, oui, moi j'ai ce droit-là, parce que moi je suis facilitateur. En fait, si tu veux, ce qu'on va, entre guillemets, pas, ce qu'on va éviter, c'est le client qui réagit sur le fond. C'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, ah non, mais ça, allez voir le DRH, j'ai déjà essayé, ça ne marchera jamais, et puis en plus, c'est un violent, il s'en fout des humains. Tout ce qui m'intéresse, c'est des licenciements. Bon, tu vois, c'est ça qu'on va éviter, parce qu'on veut qu'il puisse tout prendre, le relire ensuite et faire son tri. Okay, par contre, il a tout à fait le droit, et on invite d'ailleurs le client en tant qu'animateur, on invite au début de la séance, on est en co-responsabilité, on invite à réagir si on en a besoin. C'est-à-dire, s'il a à un moment donné besoin de manifester un inconfort, il peut le faire spontanément. Donc, s'il le fait, par exemple, là, avec l'exemple que j'ai pris, il peut très bien dire... Bon, en fait, je ne trouve pas ça super confort ce que tu me dis, quoi. Ça me gratouille un peu. Et puis là, du coup, alerte pour moi, animateur, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'en fais? Ok, vas-y, continue. Bah, oui, vas-y, dis-lui à Maurice ce que ça te fait, ce qu'il a dit. Ok. Donc là, tu vois, je vais faire circuler la parole parce que c'est super important et que ça fait partie du co-développement.
Mais c'est quand même cadré pour pas que ça prenne des proportions trop importantes dans la consultation dont ce n'est pas le but, en fait.
Les proportions, elles peuvent vraiment être importantes, mais. Avec bienveillance, avec un fond qui permet d'accéder, avec une forme qui permet d'accéder au fond. Et si jamais le client n'a pas réagi parce que la co-responsabilité, il s'en est pas saisi, dans tous les cas, moi, en tant que facilitateur, s'il y a rupture de la bienveillance, je vais quand même aller chercher le client et je vais dire, tiens, oh, juste pour vérifier comme ça, ça te fait quoi là, ce que tu viens d'entendre? Et chaque fois que j'ai eu cette intuition et que je suis allé vérifier avec le client, je crois que je ne me suis jamais trompé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le client a dit ouais, bah, je trouve, franchement, moi je trouve ça limite agressif. Enfin, ah ouais, mais c'est. En fait, je peux. Bah non, je n'arrive pas à l'entendre parce que je comprends. Ouais. Et du coup, après, moi, je vais gérer ce qu'on appelle gérer les boucles relationnelles. C'est-à-dire que si le client a manifesté ça, je retourne vers le consultant et je lui dis, bon, Maurice, tu peux entendre ça? Tu vois, tu comprends que la forme peut-être, machin. Et puis là, il va me dire, ah bah ouais, peut-être, ouais, ok. Et puis peut-être qu'il va dire non. Et je vais continuer. Okay? Pour que les choses qui doivent être dites soient dites et que ce qui doit être entendu soit entendu.
Oui, je comprends. Étape 5?
Et donc, l'étape 5, on a notre client qui a rempli souvent 2, 3, 4 pages d'idées, de recommandations, etc., etc. Et donc, à l'étape 5, en tant qu'animateur, je vais l'inviter à prendre une dizaine de minutes de recul. Donc, ça peut être dans une pièce d'à côté, dehors s'il fait beau, ou alors tout simplement, il reste au milieu de nous, mais il s'isole dans sa tête. Et je vais l'inviter à annoter tout ce qui l'inspire, tout ce qu'il retient, tout ce qu'il compte mettre en œuvre. De sorte que dans la deuxième étape de cette cinquième étape, dans le deuxième temps, pardon, deuxième temps de cette
Tu
cinquième
l'appelles
étape,
comment cette cinquième étape?
synthèse, c'est la synthèse du client.
Synthèse, ok.
Donc dans la deuxième partie de cette cinquième étape, le client va tout simplement nous livrer en fait bah, ce qu'il vient de préparer, c'est-à-dire bah, voilà, ce que je retiens, c'est ça et ça, ce qui m'inspire, c'est ça. Tiens, vous m'avez parlé d'un livre, oui, en effet, je compte le lire. Donc il y a autant des choses qui peuvent être du domaine, on va retrouver toujours nos deux familles, hein. Il y a des choses qui vont être plutôt typées action, je vais lire telle chose, je vais aller voir le DRH, je vais je sais pas quoi. Et puis il peut y avoir, je retiens, voilà, quand tu m'as dit que c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'avait pas complètement envie de réussir, ouais, ça résonne en moi, donc bah, je vais y réfléchir, je vais, voilà, en tout cas, ça m'intéresse. Voilà, donc on va être dans ces deux familles et il va nous dire tout ce qu'il retient, tout ce qui l'intéresse. Et là, on ne va pas lui demander de se justifier pareil. Hein. On est dans une méthode qui est vraiment adulte, quoi. Donc on ne va pas lui dire, ah mais pourquoi t'as pas retenu, c'était voilà, un
Et
mois.
moi, j'avais dit ça,
Ouais,
tu
c'est
n'as
un peu
pas.
ça. Et tu vois, dans les finesses aussi, il faut se méfier de bah, chaque. En fait, le client, souvent, par gentillesse, il a envie de dire à toi, Johanna, le truc que tu as dit, mais c'était trop bien. Ah, c'est trop bien, bah, alors ça je vais le faire. Là, ça me. Et puis,
Qu'est-ce
tu
que
vois,
t'es
il passe.
intelligent, toi?
Ouais, voilà, donc cinq fois les propositions de Johanna, et puis moi le pauvre petit Fabien, pas une fois mes propositions. Tu vois, donc ça
Donc
fait
t'enlèves
11.
les noms en fait, tu remets en global.
Exactement. S'il commence à dire, et toi Johanna, et toi Christophe, et tout, on va l'inviter à parler au groupe. Dire, ah, c'est super, je sens tout ton élan comme ça de remercier les gens, mais tu sais, c'est le groupe qui a œuvré, donc je te propose de rendre au groupe. Et puis, paf, voilà, c'est parti, les gens prennent l'habitude. Et tu vois, l'air de rien, on leur envoie plein de choses sur la notion de collectif. Ça impacte durablement tout le groupe. Et donc, avant que tu me poses la question, donc la sixième étape.
C'est bien, dis donc,
Bien,
t'es
hein?
bien dressé quand même,
C'est
hein.
bien, hein? Ouais. Hein? En plus, on est à notre deuxième interview quand même en 5 ans.
C'est vrai, on a fait une interview vidéo ensemble il y a quelques années.
J'avais adoré, d'ailleurs, j'invite les auditeurs. Allez, regardez cette magnifique interview!
6, étape 6. Faut te recadrer quand même, hein. Tu sors de la route quand même,
Ouais,
hein.
oui, c'est ça. Ouais, mais moi je sais que les gens ont besoin d'espace de respiration, tu vois,
Ah, c'est pour ça.
étape 1, étape 2,
Donc,
étape 3.
cher auditeur, respirez.
Et on fait un petit tour comme ça sur le chemin d'à côté, au milieu des pêchers et des abricotiers, puis on revient sur la route du co-développement avec la sixième étape, en effet. C'est celle du débriefing, où on va inviter, donc le facilitateur va inviter chaque personne, à commencer par le client, à exprimer comment elle a vécu cette séance de co-développement. Alors on peut envoyer des questions pour aider, parce qu'au fond, échanger sur le comment, on n'en a pas, comme on a vécu quelque chose, on n'a pas tellement l'habitude de le faire, avec des questions du type, bah, est-ce que vous avez appris des choses sur vous, sur nos groupes? Est-ce que vous avez envie de renvoyer quelque chose à quelqu'un d'autre? C'est l'étape où on peut très bien dire, par exemple, bah, tiens, Maurice, tout à l'heure, moi j'ai trouvé qu'il était allé un peu fort de café, quoi, quand ça fait ton retour au client. Ouais, je suis consultant, mais ça m'a remué le ventre aussi, quoi. Etc. Donc c'est vraiment un retour sur ce que nous avons vécu ensemble.
Elle dure combien de temps les étapes de débriefing?
Elle dure, généralement, on ne met pas d'objectif de temps, mais elle dure entre 10 minutes et une demi-heure si elle est riche.
Parce que quand tu parles de quelque chose comme ça, tu ouvres un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire que voilà, c'est dur de contraindre ça dans le temps, non?
Oui, et l'inverse aussi. C'est-à-dire que Si tu animes un groupe de coach ou de psy, tu vas avoir du mal à les contraindre dans le temps. Et si tu animes un groupe de managers, surtout hommes, tu vas avoir du mal à la faire durer plus de 5 minutes. Donc il va falloir envoyer. Eh oui, parce que, et surtout à la première séance. Bon alors, comment vous avez vécu cette séance? Est-ce que vous pouvez partager la manière dont vous avez ressenti des choses? Oui, c'est bien, c'est une technique intéressante. Ouais. Voilà, et c'est quand même ce qui se passe concrètement très souvent avec dans les entreprises notamment. Maintenant, dès lors qu'on est dans des univers qui sont plus, d'une part, oui, le domaine de l'accompagnement, donc les domaines RH, le monde de la transition, où on a beaucoup plus l'habitude de se parler. Dès lors qu'il y a, c'est plutôt féminin aussi, parce qu'on se parle plus facilement, en fait, tu vois, donc il va y avoir des ambiances, mais parfois il faut aller chercher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher des gens pour pouvoir avoir autre chose que le fameux. Ouais, c'est bien, c'est intéressant.
En quoi cette étape de débriefing, elle vient enrichir les 5 étapes d'avant, si elle est compliquée quand même apparemment, c'est un peu l'étape la plus compliquée quand on n'a pas l'habitude pour les
Non.
participants.
Non, je ne peux pas dire sur l'étape la plus compliquée, je dis juste que ce n'est pas une habitude qu'on a que d'aller chercher à l'intérieur comment on a vécu un moment ensemble et de mettre au milieu du cercle. Mais ce n'est pas très compliqué, c'est simplement une petite habitude à prendre. Et pour moi, elle vient plus enrichir nos groupes et les individus qu'enrichir les étapes précédentes.
D'accord.
En gros,
J'ai toujours.
on a un peu fini quoi, avec le client, c'est-à-dire qu'il a eu plein de cadeaux, il a fait ses choix, il a annoncé ses choix, il a annoncé ses retiens. Et là, on reprend plutôt vraiment une identité pour le groupe intégralement. Et c'est vraiment très apprenant. Au passage, d'ailleurs, les personnes, les participants peuvent très bien exprimer quelque chose envers l'animateur. Ils peuvent exprimer leur frustration. Ben voilà, tiens, un exemple. Première séance. Très souvent, on a au moins une, deux ou trois personnes qui vont exprimer une frustration parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude d'avoir un moment où on écoute quelqu'un exprimer une situation sans pouvoir le couper et puis poser des questions qui ne sont pas mélangées avec des solutions où on cherche vraiment à clarifier. Et puis quand ils ne le font pas, l'animateur va dire: Ah, écoute, comment tu pourrais reposer ça d'une manière ouverte pour questionner le plus large possible? Bah quelque part, c'est frustrant quoi, quand on a l'habitude. Et puis on se raconte souvent que non mais c'est bon, on a compris quoi. En plus, on est collègues, on n'a pas besoin d'écouter pendant 3 quarts d'heure des réponses à des questions, quoi. Ça va, on connaît le DRH, on connaît le boss, on a le même problème. Donc c'est bon, ça va. Et en fait, si, là, ils découvrent que c'est pas vrai, que même si théoriquement on comprend, bah non, on comprend rien du tout parce qu'on n'est pas pareil que l'autre. Toi, tu as un problème, moi j'ai le même problème. On va pas le vivre de la même manière, on va pas l'exprimer de la même manière. Tu vois, donc la première fois, souvent, ils vont poser la frustration qu'ils ont ressentie. Et puis dire, ouais, mais en même temps, je me rends compte que ça fonctionne. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent. Donc, peut-être que ça vient de la méthode. Et puis, deuxième, troisième séance, avec le même groupe, on entend très souvent la même personne qui dit, en fait, j'ai compris. C'est super bien, quoi. Parce que c'est le fait de respecter toutes ces étapes bien claires qui fait que c'est puissant. Ils commencent vraiment à comprendre le truc, tu vois. Donc, c'est important qu'ils puissent poser la frustration, mais aussi le plaisir. Des personnes vont dire, mais waouh, c'est trop bien, mais c'est la première fois que je peux parler d'une situation avec 10 paires d'oreilles qui m'écoutent sans me couper. Génial, trop bien.
Et aujourd'hui, le co-développement, comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que les étapes changent? Est-ce qu'il est enrichi? Et comment? Ou c'est quelque chose de fixe?
Alors, moi, je fais une réponse personnelle parce que je pense qu'il y aura d'autres réponses par d'autres personnes. Moi, à titre personnel, quand j'ai rencontré Co-Développement, moi qui suis pourtant quelqu'un qui aime bien faire des gros gloubi-boulga, tu sais, prendre des morceaux d'un truc, les mélanger avec d'autres, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit cette méthode, elle est tellement nickel que je ne vois pas l'intérêt d'y bouger quoi que ce soit. Donc, personnellement, je fais une réponse qui est aussi celle d'un des gardiens du temple, si je peux dire, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je me sens comme d'autres personnes en France, vraiment garant de la méthode telle que Champagne et Paillettes l'ont mise au point, elle est trop belle. Donc, personnellement, quand j'apporte des choses, c'est jamais en rupture avec les fondations de cette méthode. Ça peut être des petites originalités, par exemple, faire tirer une carte de jeu du Tao à l'étape du questionnement, c'est-à-dire j'invite le hasard à la table des consultants, tu vois, mais ça ne heurte en rien l'esprit du co-développement. Ou alors faire tirer une carte du Viking, toujours issue du jeu du Tao, par exemple, à l'étape de la consultation. Là, j'invite le hasard chez les consultants, je trouve, pour donner un conseil. Je trouve ça plutôt sympa, marrant, ça peut ouvrir sur autre chose. En revanche, je suis totalement personnellement opposé à des choses que je trouve criminelles dans l'esprit du co-développement, comme j'ai entendu parfois, quoi. Par exemple, à la quatrième étape, faire sortir le client et se mettre d'accord entre consultants sur ce qu'il a de mieux à faire. Et ensuite, il revient puis on lui dit. Ben ça, pour moi, c'est heurter totalement l'esprit du co-développement. Puisque c'est une prise de pouvoir sur le client. Alors que le co-développement est une méthode vraiment qui permet au client de repartir un peu plus acteur de sa propre situation. Or, on sait que quand on dit à quelqu'un ce qu'il doit faire, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, quoi.
Ça y est, je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews avec la première question. Alors,
Ok.
j'ai demandé de te plonger dans tes tout souvenirs et d'aller chercher une expérience. Et ce que j'aimerais, c'est une histoire de quelque chose que tu aurais pu vivre comme un échec ou que les autres ont vu comme un échec et qui t'a énormément appris. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as appris d'un de tes échecs?
Ah, on retrouve l'essence de Johanna, la quintessence. Bon, je n'intellectualise vraiment pas du tout, donc du coup, je ne sais pas comment je parlerai de ce que j'en ai appris, mais la première chose qui m'est apparue quand tu m'as parlé d'un échec, ben, c'est quand même que j'ai fait 5 ans dans l'armée. Je me suis engagé à un peu moins de 20 ans dans l'armée de terre. J'ai fait pour des valeurs parce que je crois qu'il y a un petit peu de ma psychogénéalogie régionale là-dedans. Je suis originaire de Moselle même enfant, et bien que je ne sois pas enfin, super vieux par rapport à ces événements, quoi. J'ai une cinquantaine d'années, mais j'ai entendu mon père parler de son père qui est emmené à la baïonnette, machin, nanana, par les Allemands. C'était tantôt français, tantôt allemand et tout. Je crois que j'ai été très tôt porté par l'idée que s'il fallait, moi je ne suis pas du tout violent, mais s'il fallait se battre. Pour mes compatriotes, bah, je le ferai. Donc c'est parti des valeurs, et puis ce que j'y ai trouvé était tellement discordant que je m'en suis sauvé le plus rapidement possible. Je voulais partir au bout d'1 an et 1 jour, ils m'ont pas laissé partir, donc j'ai dû assumer mes 5 ans. Donc très sérieusement, je sais pas quel enseignement j'en ai tiré, mais si, peut-être que ça m'a donné. J'ai vraiment touché le fond, en fait, au bout de 2 ans à peu près, parce que je m'en sortais pas, quoi, et puis. J'avais encore 3 ans à tirer, c'était assez horrible. C'est une période très très noire de ma vie, très très noire, parce que je voyais pas le bout du tunnel. Mais pourtant, à ce moment-là, je me suis vraiment accroché, et je crois que ça a été fondateur pour moi. Il y a une pensée qui m'est venue à ce moment-là, elle n'est pas moi, mais je crois que je me suis accroché à ça, c'était l'heure la plus noire de la nuit précède le lever du soleil. Et il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Je crois que je me suis aperçu. Alors que beaucoup de gens étaient vraiment mal autour de moi, je crois que je me suis aperçu d'une certaine force d'une certaine résilience, quoi, que j'ai pu retrouver après d'ailleurs.
Deuxième question. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil, en dehors du co-développement bien sûr, qui t'a particulièrement fait avancer personnellement ou professionnellement?
Un livre. La première chose qui me vient, c'est il y a un livre et une technique. Donc je vais citer d'abord le livre. Bah, ça n'a rien d'original, hein. C'est le pouvoir du moment présent. Ça m'a bouleversé. Il y a quelques pensées que j'ai trouvées qui ont été fondatrices pour moi, qui sont, bah, qui sont oui, l'essence, la quintessence du moment présent. Moi, Cartoni, il m'a aidé à travers ce livre à un petit peu faire pause avec mon mental, quoi. Ce mental omniprésent, toujours en train de galoper dans tous les sens, quoi. Je crois que j'ai acquis, je ne vais pas dire définitivement, mais des fois je replonge, je pense comme tout le monde, mais je crois que j'ai acquis quand même que le passé n'existe pas, puisque évidemment il est passé, ça on le conçoit tous, mais pourtant on a tendance à continuer à le faire vivre en nous, et à avoir des pensées qui vont nourrir le passé. Le futur n'existe pas, et ça c'était peut-être le plus compliqué pour moi de comprendre ça, le futur n'existe pas, c'est juste une construction de l'esprit, et que donc vraiment seul le présent existe, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle présent, parce que c'est un cadeau, le présent. Mais j'ai du mal à l'expliquer parce que ça semble bébête en fait, puisque ça paraît être une évidence. Sauf qu'en vrai, notre mental nous emmène tellement dans le passé et dans le futur qu'on est rarement finalement dans le présent. Ça a été une découverte fondamentale pour moi, grâce à Eckhart Tolle.
T'es décidément un rebelle, donc on a répondu à la quatrième question qui est quel livre voilà, vous conseillez à la lecture? Et maintenant, est-ce que t'as une technique?
Et ben, la technique ou l'approche, en fait, pour moi, c'est plus une approche, c'est une approche qui s'appelle l'énéagramme.
Ah oui, tu fais plusieurs interviews sur le sujet.
Ah ouais, et ben, l'énéagramme, c'est un peu révolutionnaire pour moi parce que ça m'a permis de comprendre sur quelle planète je naviguais, alors que je pensais que c'était juste normal de fonctionner comme je fonctionne. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est la base 7, c'est-à-dire la base de l'épicurien. Et l'apprentissage fondamental que j'en ai fait, c'est que chaque fois que je me disais que demain ça va aller mieux, j'étais dans la fuite. Et il y a un lien total du coup avec le livre des cartonniers dont je viens de parler, puisqu'il a fallu que je comprenne comment ma base d'énéagramme m'entraînait systématiquement vers la fuite dès que j'étais dans une difficulté dans le présent. Et donc du coup, partant de ça, je me suis mis l'axe de travail qui est reste, accepte en fait cette souffrance qui est d'être là maintenant dans une forme de ce qu'on appelle l'enfermement en fait, sur cette base dans l'énéagramme. Voilà, donc les deux se sont rejoints, le livre décartonné et l'énéagramme pour moi.
Alors, quelle est selon toi la qualité principale à développer pour être un bon manager ?
Alors, quelle est la première qualité ? Personnellement, vu d'où je parle, moi je dirais que ça serait bien l'écoute, quoi. Mais l'écoute d'une manière large, hein, quand je dis écoute, pour moi je pense pas seulement à un manager dans son bureau qui est prêt à écouter chacun de ses collaborateurs un par un avec énormément de bienveillance et tout, il y a de ça. Mais je crois que c'est une écoute globale, quoi. C'est une écoute des personnes, mais c'est une écoute aussi du collectif, c'est une écoute des signaux faibles. C'est cette subtilité-là, quoi, je crois.
C'est une attention, j'ai l'impression, quand tu décris l'écoute.
Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Ouais.
Et puis, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a une citation qui pourrait définir ton action ou qui te parle ?
Il y en a une qui est omniprésente en moi en ce moment. C'est une citation de Victor Hugo qui disait « L'utopie est l'avenir qui s'efforce de naître, la routine est le passé qui s'obstine à vivre. » Voilà, ça me parle beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup question là-dedans de... Enfin, c'est très riche, il y a beaucoup de choses, on pourrait la mettre au cœur de la transition aussi. Je crois que sociétalement, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre et c'est complètement au cœur de mon action, puisque à travers l'histoire que je raconte, je vais plutôt du côté de l'utopie. Et puis je crois que la plus grosse partie, en tout cas les plus puissantes de ce monde, entraînant la plus grande masse avec eux, sont du côté de ce que Victor Hugo appelait la routine, quoi, pour que le passé continue à vivre. Alors que le modèle est complètement exsangue.
Pour finir, quelle est la manière la plus simple de rentrer en contact avec toi ? Tu as un site internet ?
Alors, il y a le site sur Decodev, et puis il y a le site qui m'est plus cher sur mon approche globale, quoi. Je vais les fondre en un seul d'ailleurs à l'avenir, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Donc, mon site, c'est toutcollé.fabienrodin.com. Et puis, je suis sur Decodev.
Je le mettrai en lien dans l'article qui sera joint à ce podcast.
Ok, c'est super. Et puis, celui sur le codev, c'est www.codeveloppement-academy.com, avec un Y Academy.
Et maintenant, pour conclure, Fabien, quels sont tes projets ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ?
Alors, mes projets, c'est beaucoup, c'est énormément autour de l'écriture. Donc déjà, on a parlé codeveloppement et demain sort officiellement donc l'ouvrage que j'ai coécrit avec trois autres personnes sur le co-développement qui s'appellera le co-développement guide du facilitateur. Et puis les trois co-auteurs étant Audi Denayer, Laurence Margarita et Gilles Chachéral. Et puis j'ai beaucoup de projets d'écriture, donc la suite de ma saga de bande dessinée qui s'appelle Les Seigneurs de la Terre,
qui est chez Glénat
exactement. Et donc qui est une BD à la fois grand public et engagée sur le domaine de l'alimentation. Donc évidemment, on aborde la malbouffe, le bio, les OGM, les pesticides et tout ça, la paysannerie. Et puis je suis aussi en train de co-scénariser une série de bandes dessinées qui va parler du vin bio, vin biodynamique et des vins nature. Et j'ai d'autres projets de bande dessinée, dont un énorme projet dont je ne peux pas dire grand-chose actuellement parce qu'il n'est pas suffisamment avancé, mais qui sera peut-être, si ça voit le jour, un projet carrément de collection, une collection engagée de bandes dessinées sur des thèmes de la transition.
Bon, t'as de quoi faire, quoi.
J'ai de quoi faire.
Bah, je te remercie parce que je pense que ça permet de vraiment éclairer le sujet du co-développement en ayant vu vraiment toute la séquence. Et bah, je te souhaite beaucoup de réussite.
Merci beaucoup, Joanna.
J'espère que cette interview vous a plu, que vous avez une idée plus précise de ce qu'est le co-développement. Bon, toujours, ce qui est le mieux dans ces cas-là, bah, c'est d'essayer, d'expérimenter. Ça vaut mieux que tous les mots et les interviews. Vous pouvez également aller voir, mais même chose, le mieux c'est de l'expérimenter, la page du Talentoscope. Donc c'est la turbine à bonheur que je fais spécifiquement en entreprise dans les séminaires sur les talents, identification des talents de l'individu, apprendre à identifier les talents chez l'autre. Il y a une forme de co-développement, bien que je l'ai fait avant de connaître le co-développement, où on s'entraide à identifier les talents des uns et des autres et ensuite de voir les talents du groupe. Donc talentoscope.fr, talentoscope.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, a priori, on va avoir des interviews toutes les semaines. On va parler avec quelqu'un qui est dans le recrutement, donc une vision plutôt RH. On va parler de ludification bientôt aussi et plein d'autres sujets qui j'espère seront passionnants. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain.